Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs, mesdames et messieurs. Merci encore de votre fidélité à Paroles aux Auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La constitution de la RDC est entrée en vigueur dès sa promulgation selon l'article 229, le 18 février 2006. 14 ans après, les élections générales nécessaires à l'installation effective des nouvelles institutions, conformément à l'article 222, ont eu lieu trois fois, sauf les élections locales, urbaines et municipales. Selon vous, comment la constitution du 18 février 2006 a-t-elle évolué jusqu'à ces jours? Dans cet échange citoyen pendant 57 minutes, nous tenterons de recueillir vos avis et considérations et même votre lecture citoyenne sur l'avenir de cette loi fondamentale. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous.
De Goma, au Matadi, au Kanaga,
au Capisport, partie interactive.
C'est Yves Mwamba-Kadima, je suis à Mbujima. Je commence d'abord à féliciter la radio Kapi. C'est une radio qui est installée avec toute la rue des Montagnes du Congo. Mais je préfère assez que cette radio soit toujours en contact avec la population. Parce que ces informations commencent d'abord par la base. Et cela permet à ce que la radio Kapi puisse développer scientifiquement sur tous les plans économiques, politiques, sociaux, culturels, à partir des informations qui sont données par la base. C'est ça mon souhait.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci à Jean-Noël Mokondo qui assure la mise en onde de cette émission et merci également à Pierrot et la Mégie et Nico Kalambay qui concourent à la production et à la réalisation de ces programmes. Nous recevons Maître Donatien Okoko qui est avec nous. Maître Donatien, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les amis de Radio Okapi.
La constitution de la RDC, promulguée en 2006, en fait, s'articule pour l'essentiel autour des quatre idées force, à savoir la souveraineté de l'État, la question des droits humains, de l'organisation et de l'exercice du pouvoir, ainsi que de la révision constitutionnelle. Cette loi fondamentale, comment a-t-elle évolué selon vous?
Bon, je dirais de manière générale que la Constitution a de manière générale bien évolué, mais qu'il serait mieux qu'après 14 ans de vie, que la Constitution soit évaluée pour voir qu'est-ce qui a été de bon et qu'est-ce qui a été de mauvais. Dans ce qui a été de bon, il faudrait que l'on fasse un effort pour consolider, pour qu'on aille de l'avant. Et dans ce qui a été de mauvais, qu'on fasse une révisitation pour que la Constitution soit adaptée aux réalités ou à l'évolution changeante de la vie. Donc, de manière générale, je peux dire que la Constitution a très bien évolué, mais il y a eu quand même des ratés.
Est-ce qu'à ces jours, c'est une nécessité de pouvoir parler de la révision constitutionnelle?
Bon, la Constitution elle-même prévoit qu'elle peut être révisée, parce que la Constitution n'est pas... C'est une œuvre humaine qui doit toujours, à tout moment, être amendée pour être adaptée à la réalité, parce que généralement, les besoins qui ont mérité sa rédaction d'hier peuvent ne pas être exister aujourd'hui. Et les besoins d'aujourd'hui peuvent aussi ne pas être les besoins d'hier. Et à ce moment-là, il faudrait qu'on puisse amender la Constitution. Je peux vous dire d'entrée de jeu, hier, si nous y allons par exemple à l'article 10 de la Constitution, sur la souveraineté, on vous dit la souveraineté congolaise est une et exclusive et qu'elle ne peut être tenue concurremment avec une autre nationalité. Hier, vous allez vous rappeler que je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, que c'est depuis 2008 que M. Vital Kamerhe, alors
président moratoire, de
l'Assemblée nationale, avait pris un moratoire qui, jusqu'à aujourd'hui, ce moratoire n'a jamais été, n'a jamais connu un début de solution. Pourquoi? C'est parce que au sein de nos assemblées parlementaires, au sein de nos assemblées délibérantes, les cas de double nationalité existent toujours jusqu'à présent. Et donc, vous comprendrez que laisser une telle disposition dans la Constitution ne sert plus à rien, parce que nous savons que parmi nous, il y a des gens qui ont double nationalité. Vous vous rappellerez au moment de la nomination du Premier ministre Sami Badibang, il avait double nationalité. Et donc, pourquoi doit-on continuer à garder une telle disposition dans la Constitution? Pas seulement pour la crainte que certains, beaucoup de gens viendront pour avoir notre nationalité, mais le problème, c'est quoi? Quand vous regardez aujourd'hui, beaucoup de nos frères qui sont à l'étranger ont changé de nationalité ou ont obtenu de nouvelles nationalités, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent plus du Congo, mais pour avoir une certaine assurance dans les pays où ils se trouvent, ils ont préféré changer de nationalité, mais leur cœur, c'est toujours au Congo. Alors pourquoi les priver de ce droit d'être congolais dès lors qu'ils n'ont changé de nationalité que pour peut-être des buts bien précis?
Voilà, alors on a assisté tout au long, en tout cas 14 ans durant, à des interprétations diverses autour de certains articles de la Constitution, en tout cas qui divisaient les acteurs politiques. Est-ce que vous pensez qu'effectivement un jour il y aura, c'est vrai en évoluant avec la convergence parallèle, ils arriveront un jour à avoir une interprétation unique selon les constituants à l'origine?
Bon, ce qu'il faut dire, c'est quoi, j'ai... La Constitution a très bien défini les règles du jeu. Il n'appartient pas à un acteur politique d'interpréter la Constitution. L'organe compétent pour interpréter la Constitution est la Cour constitutionnelle. Tout ce que nous faisons là, ce sont des commentaires que chacun peut émettre d'après lui. Mais sinon, l'interprétation de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle.
Oui, parce que quand nous avons vu la question sur le mandat, le nombre et la durée du mandat du président, l'ancien, et ça a suscité des débats avec l'ancienne majorité qui est allée à la Cour constitutionnelle et qui leur a donné raison que le président en exercice reste en place jusqu'à l'installation. Et c'est cette phrase-là qui avait compliqué et pratiquement les choses durant la fin de ce mandat.
Bon, il y a ceci, je comprends votre préoccupation, mais le problème c'est lequel? Au moment où nous étions, parce que quand vous lisez cet arrêt de la Cour constitutionnelle, vous allez voir que la Cour constitutionnelle n'a pas expressément donné raison à la majorité, mais n'a pas non plus dit le droit exactement. Parce que dans cet arrêt, qu'est-ce que la Cour dit? La Cour dit qu'on n'interprète pas une disposition qui est claire. Donc la disposition de l'article 70, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Donc la Cour dit que c'est clair, donc ça n'appelle pas interprétation. Mais quelque part, au moment où nous étions arrivés, imaginez si la Cour avait dit non, le président doit quitter. Donc en quittant le pays à ce moment-là, parce que les arrêts de la Cour sont exécutoires, et on se trouverait dans quelle situation politique où on n'aura plus un président à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est pourquoi la Cour avait voulu tout simplement calmer le jeu. Mais la Cour avait bien dit que les dispositions sont claires. Parce qu'il faut voir même le... Quand la Cour dit que la disposition est claire, c'est clair, j'y ai. Parce qu'il faut voir le verbe a été utilisé à quel temps. On vous dit le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc vous comprenez que le verbe élu est au participe passé. Donc c'est-à-dire que le président là est déjà élu. Et pour comprendre cette disposition, il faut aller à la disposition de l'article 73. qui dit que l'élection du président de la République a lieu 3 mois avant la fin de son mandat. Et c'est-à-dire que avant la fin de son mandat, il y a déjà un président qui est élu. Et donc, le problème ne se pose pas. Le président est élu, mais il n'attend que son investiture. Mais ce n'est pas que le constituant n'a pas dit que le président reste en place
quand les élections ne sont pas organisées.
Du nouveau président à élire. On n'a pas dit à élire parce que nous étions dans la situation du nouveau président à élire parce que le président n'était pas encore élu. Donc vous comprendrez que la Cour a joué aussi parce que la Cour a aussi la mission de réguler la vie politique. La Cour ne peut pas prendre une décision qui puisse plonger le pays dans le chaos. C'est pourquoi il a coupé la poire en deux. Les uns ont trouvé leur part, les autres aussi ont trouvé leur part.
Alors, au nombre de faiblesses, d'aucuns estiment que le fait que cette constitution ait été révisée en 2011, ça prouve insuffisance, sa fragilité, même dans les jours à venir, elle pourrait être retouchée par plusieurs fois.
Non, je peux vous dire, sans peur d'être contredit, notre constitution-là, a été élaboré dans de très très bonnes conditions et je peux dire que c'est l'une des constitutions, l'une des meilleures constitutions d'Afrique. Mais le problème c'est quoi? Ce sont les révisions qui tendent à accorder donc des révisions non démocratiques. C'est ça que je veux dire. Les révisions qui cherchent à faire gagner à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre.
Taillé sur mesure.
Taillé sur mesure, voilà. Mais sinon, la constitution telle qu'il a été révisée par le constituant de 2006, c'est une bonne constitution, parce que c'était une constitution de compromis. Vous allez voir que ce que nous avions connu dans le passé comme crise dans l'actuelle constitution, le constituant a fait un effort pour trouver des solutions pour que cette crise-là ne revienne plus. Mais malheureusement, comme vous venez de le dire, lorsqu'on cherche à tailler des révisions sur mesure, c'est là qu'il nous crée des problèmes. Et le problème, entre autres problèmes qui a été créé, c'est quoi? C'est là, en 2018, lors des élections, où on vous dit, non, opposition, attendez-vous pour que vous puissiez nous trouver quelqu'un, parce qu'on ne peut pas aller en ordre dispersé. Alors que si cette constitution n'avait pas été révisée, on aurait une élection présidentielle à 2 tours, au premier tour, tout le monde qui veut se présenter se présente. Et au deuxième tour, on ne retient que les deux. Et en ce moment-là, le jeu politique, la classe politique est scindée à deux et c'est automatique. Et l'un d'entre eux, comme ça, c'était le cas en 2006, avec au premier tour, on avait 33 candidats. Et au deuxième tour, on a eu Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Mais voilà que la révision de 2011 nous a plongé dans le chaos où on est élu à la majorité simple. Donc c'est
mais on peut tout de même reconnaître que certains articles souffrent d'application jusqu'à ces jours, tandis que d'autres ont été appliqués même en retard. Je prends le cas du fameux article sur la gratuité.
Bon, oui, il y a un problème de politique. La gratuité a été dans la Constitution et depuis que la Constitution a été révisée et a été
promulguée,
cette Constitution, cet article-là était là, mais n'avait pas été appliqué. Il n'y a pas que ça. Si vous prenez, je n'ai pas l'article avec moi, là où on parle de retenues à la source de recettes à caractère national et recouvrées en province, vous voyez que aussi bien en 2006 qu'aujourd'hui, on continue à faire une application non constitutionnelle de loi de finances, où on vous dit rétrocession. Alors que le constituant n'a pas parlé de rétrocession, le constituant a parlé de retenue à la source. Donc ça pose des problèmes. Mais la rétrocession trouve sa justification parce que si on applique retenue à la source, vous allez voir que certaines provinces seront assidifiés. Par exemple, en nombre, je prends le cas de l'enseignement. Et vous prenez la province, l'ancien Grand Bandundu. C'est la province où il y a beaucoup plus d'écoles que toutes les autres provinces de la République. Mais sur le plan de la richesse, c'est l'une des provinces la moins nantie. Et si on ne fait pas la rétrocession, si on laisse à Bandundu seul la charge de payer les enseignants, il ne s'en sortira pas. C'est pourquoi, pour essayer un peu d'équilibrer les choses, on a recouru à ça, mais c'est anticonstitutionnel, c'est contre la Constitution. Et encore qu'il faudrait qu'on mette en effectivité la Caisse nationale de péréquation pour pallier à ces déséquilibres de richesse entre les
voilà.
provinces.
On va revenir sur certains articles qui souffrent d'application. Il est temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints pour ce débat. Gracie est à Kinshasa, Augustin à Bouindé, 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969.
C'est Yves Mwamba Kadima, je suis en Bujumbura. Je commence d'abord à féliciter la radio Kapi. C'est une radio qui est installée avec toute la République de Moitié du Congo. Mais je préfère que cette radio soit toujours en contact avec la population. Parce que ces informations commencent d'abord par la base. Et cela permet à ce que la radio Kapi puisse développer scientifiquement sur tous les plans économiques, politiques, sociaux, culturels, à partir des informations qui sont données par la base. C'est ça mon souhait.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, JR Lungembo.
Joyeux anniversaire à vous tous qui êtes fidèles à Radio Okapi et particulièrement à ceux qui les sont d'ailleurs pour cet échange citoyen. Parole aux auditeurs. Gracie, vous êtes à Kinshasa. Joyeux anniversaire et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup, monsieur J.R. Joyeux anniversaire à vous aussi.
Quelle est votre contribution, Gracie?
Oui, c'est bien évidemment Maître Gracie Mongomanzongo Leite de Kinshasa. Je pense que la constitution du 18 février 2006 est une loi fondamentale avec une belle motive. Mais malheureusement, le fait que certaines dispositions ont été taillées sur mesure, elles présentent actuellement une face défigurée, vu sa révision dramatique de 2011. Car cette fameuse révision eut un caractère conjoncturel. Certes, toute constitution reste révisable, mais chaque révision constitutionnelle doit tenir compte de réalités sociales. Il faut signaler que le manque de culture politique et démocratique des dirigeants de notre pays entraîne probablement de minimiser la valeur de notre constitution et dessine un tableau pathétique que depuis l'indépendance, nous sommes en quête d'une véritable identité constitutionnelle. Car celle-ci, c'est-à-dire la constitution de 2006, contient des dispositions chrysogènes et opportunistes qui ne facilitent nullement toute le couche sociale congolaise.
Merci beaucoup, Gracie. Pour vous, vous estimez que il y a beaucoup d'articles qui souffrent d'application. Il va falloir que chacun, en ce qui le concerne, puisse évaluer cette constitution. Alors, Augustin, vous êtes à Bouindé. Bonjour, Augustin.
Bonjour, Julia. Bonjour à tous les auditeurs et joyeux anniversaire à la Radio Capi.
Merci, Augustin. Faut-il adapter la constitution au contexte politique actuel?
Hier, en fait, j'aimerais aujourd'hui dire par rapport au thème du jour que la constitution de la République démocratique du Congo est une constitution qui n'a fait que 14 ans. On a depuis l'expérience, nous avons vu comment cette constitution a souffert. Et si la constitution de la République démocratique du Congo, qui fait aujourd'hui ces 14 ans, ça n'a pas été de l'eau à boire, mais ça a été un grand combat. Dans le contexte où il y a eu plusieurs tentatives de révision de la Constitution, nous avons vu combien de fois où les citoyens congolais, les patriotes congolais ont perdu même leur vie. Certains qui ont perdu, qui ont risqué même les maisons carcérales à cause des révisions intempestives de la Constitution. En fait, par rapport au thème du jour, nous voulons aujourd'hui dire que le problème n'est pas seulement un problème congolais, mais nous avons l'impression que c'est un problème qui est continental, c'est un problème qui est africain. Comment je dis ça, Julien? Si vous prenez l'aspect concernant la durée et mandat du président de la République, vous allez vous rendre compte que la Constitution n'est pas un document légal, juridique, mais c'est juste un simple papier qui est créé pour la sauvegarde des mandats de président de la République. Et ça, c'est un problème. Si vous voyez même la région des Grands Lacs, vous allez vous rendre compte que s'il y a un président qui est au mandat, lorsqu'il arrive au terme de son mandat, il va chercher, il va utiliser toute le manœuvre dilatoire pour réviser la Constitution pour que le président qui reste au pouvoir puisse, n'est-ce pas, durer, prendre un grand temps.
Oui, mais Augustin, pour, vous avez suivi notre invité tout à l'heure qui, disons, évoquait, disons, la qualité même de ces documents fondamentaux de la RDC par rapport à certains pays d'Afrique. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, en termes de mandat, de durée, du mandat des anciens chefs d'État. Donc, vous comparez à l'Afrique pour dire que c'est quand même une situation très difficile. Mais il faudrait quand même reconnaître que nous avons des très beaux textes, mais qui, si jamais ils sont appliqués, ça serait au bénéfice de la population.
Effectivement, c'est ça, c'est même au préambule, c'est ça un peu l'idéal de mon intervention. C'est-à-dire, si vous lisez la Constitution qui est la nôtre, vous allez trouver qu'il y a, certains articles, toutes les dispositions qui sont dans cette constitution, ce sont des dispositions qui sont vraiment des bonnes dispositions, mais la problématique, c'est au niveau de sa mise en pratique. C'est ça un peu le problème.
Oui, parce qu'il y a des articles verrouillés.
Je suis un ancien activiste. Concernant sur le respect des droits humains, vous allez vous rendre que dans ce contexte, au sein de la constitution, si vous lisez certains, vous lisez les articles, vous voyez que la Constitution a prévu à donner la liberté aux citoyens de vaguer librement à leurs occupations, concernant même la liberté
d'expression,
pour le marche
des manifestations,
concernant sur la vie des journalistes. Vous allez vous rendre compte que la Constitution a prévu ça. Mais hier, vous allez faire une rétrospective, vous allez voir qu'il y a eu trop de violations. Moi qui vous parle, nous avons été plusieurs fois arrêtés dans la vie de Mandra, comme étant activiste. Mais il se pose un problème sur sa mise en pratique. J'ai de faire à l'invité qui dit que nous avons une constitution qui est meilleure, mais sa mise en pratique qui pose le problème. Si et seulement si les autorités congolaises vont se battre à utiliser, à utiliser cette constitution à bon escient, la RDC serait comptée parmi les grands États du pays et pourquoi pas parmi les grands États du monde. Voilà un peu ma petite contribution.
Merci beaucoup. Pour vous estimez qu'il y a encore beaucoup à faire dans le cadre de l'application des articles concernant les droits humains. Et vous avez évoqué les cas de manifestations publiques. Et là, j'imagine que vous faites allusion du régime d'information. Aujourd'hui, ça prête à confusion. Qui doit interdire une activité publique? Et est-ce qu'il faudrait accepter juste l'information ou autoriser la marche? Merci beaucoup d'avoir appelé de Bouindé, Augustin. Maître Chadrak, vous êtes à Kolwezi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, Monsieur Gérard.
Quelle est votre contribution?
Je salue la Radio Okapi. Je présente le bon anniversaire à la Radio Okapi, qui est la radio qui fait la fierté de la RDC par rapport au traitement dans toute objectivité des informations. Parler de la constitution en RDC, c'est un document de valeur, et la loi fondamentale de notre pays. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste encore à faire dans le respect de cette loi fondamentale? Je sais qu'il faut saluer parce que quand nous prenons l'article 2 de la Constitution qui parle du démembrement, aujourd'hui le démembrement est effectif en RDC. Nous sommes partis des 11 provinces à 26 provinces aujourd'hui. Nous avons vu l'organisation des élections depuis 2006, 2011 et aussi en 2019. Il faut saluer ces avancées. Nous constatons également le pluralisme politique que nous avons autant, c'est le pays où il y a un pléthore de partis politiques estimé à plus de 700. Mm-hmm. C'est le premier pays où il y a vraiment le nombre très, 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 très signifiant des partis politiques. Il faut aussi saluer la gratuité, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement tel que prévu dans les articles de la Constitution. L'enseignement de base, elle est gratuite aujourd'hui et c'est une effectivité dans les institutions ou dans les écoles publiques. Nous avons vu également la présence des personnes vivant avec handicap au sein des institutions de la République à partir du pouvoir central. Nous avons un ministre qui gère cette institution, une personne vivant avec handicap. vraiment, ce sont des avancées significatives que moi j'ai pu relever dans le respect de notre constitution, mais il y a aussi des éléments qui restent à faire, ce qui n'a pas encore...
Alors, donc, Maître Chadak, pour vous, vous n'avez pas de commentaire quant au retard dans l'application de ces articles, notamment que vous venez d'évoquer, l'article sur la gratuité et aussi la considération des personnes vivant avec handicap. Là, je rappelle d'ailleurs à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que la constitution de la RDC est entrée en vigueur dès sa promulgation, conformément à l'article 229, le 18 février 2006, 14 ans après les élections générales nécessaires à l'installation effective des nouvelles institutions, conformément à l'article 222, ont eu lieu 3 fois, sauf les élections locales, urbaines et municipales. Alors, selon vous, comment la constitution du 18 février 2006 a-t-elle évolué jusqu'à ces jours? Vous avez, si vous pouvez participer à cette émission, composez donc les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mon ami Gère, merci à vous et aussi vos félicitations pour les 18 ans de la radio Okapi d'abord.
Merci Franck, à vous aussi parce que vous êtes fidèle de Radio Okapi et particulièrement des Paroles aux auditeurs. Depuis, le lancement de ces programmes Paroles aux auditeurs, vous êtes là et vous intervenez toujours. C'est à vous aussi les jours d'anniversaire.
Merci beaucoup. Je le fais volontiers, merci beaucoup. La radio Okapi nous aide... à faire entendre nos pensées dans sa modestie, puis à nous aider aussi à participer au débat citoyen à distance. Merci beaucoup pour la thématique du jour. Mon ami Gère, je crois que vous êtes un homme suffisamment informé, pas seulement vous, toute l'équipe de la radio Capi, partout où on vous emploie. On emploie que des hommes vertueux, solidement informés. Mais quand on parle de l'application de la Constitution, dans comment elle évolue, je crois que c'est une grande question qui nécessite beaucoup de prudence, beaucoup de lucidité et aussi beaucoup de réalisme. Si nous devons d'abord nous référer par rapport à la logique même de la conception d'une loi, une loi est conçue pour mettre de l'ordre dans la société des hommes, parce qu'on a mis des lois en place pour contraindre l'arrogance des hommes à l'état de nature, parce qu'à l'état de nature, chaque homme est pour l'autre homme un loup. C'est alors qu'on est arrivé dans la conception du contrat social à mettre des lois afin de contraindre à tout le monde de respecter aussi l'autre. Mais moi, personnellement, je crois que s'il y a des lois qui doivent régir un État, on doit tenter de les appliquer dans leur intégralité. On doit tenter de les faire valoir partout sans tenir compte des exceptions qu'on est en face de telle catégorie D, on est en face de telle catégorie D. Mais si nous devons être réalistes en tant que Congolais et voir de l'intérieur comment nos lois de la République sont appliquées depuis 2006 jusqu'à présent, je n'aurais pas vraiment honte, je n'aurais pas de complexe pour dire que selon moi, je trouve que nos lois sont appliquées selon les sauts d'humeur, nos lois sont appliquées selon les calculs, nos lois sont appliquées selon les tendances. Si celui qui est là trouve que l'article qui est là, lui, est favorable par rapport à ces prérogatives, il va tout faire pour les faire valoir en tout et pour tout. Mais du moment où le chef ou le responsable se rend compte que la loi ne lui donne plus toutes les opportunités dont il a besoin pour faire asseoir son pouvoir même au-delà des prescrits juridiques, c'est alors qu'il va chercher à l'interpréter de manière sophistique, un peu comme ça. Donc, il y a des lois qui n'ont jamais été appliquées jusque-là. Il y a des lois qu'on applique selon les sauts d'humeur. Et maintenant, peut-être que nous devons questionner nos constitutionnalistes. S'il y a des articles qui n'ont jamais été appliqués, ou bien l'article, par exemple, sur la décentralisation, on devait l'appliquer 36 mois après. Mais nous nous sommes rendus compte qu'on l'a appliqué, je crois, c'est plus de presque 10 ans après. Et comment on peut nous expliquer tous ces retards-là? Est-ce que c'est parce que la loi ne peut pas s'appliquer d'elle-même ou ce sont les hommes qui doivent appliquer ces lois qui n'ont pas souvent la volonté de la mettre en vigueur? Et je crois que de ce côté-là, nous devons aussi interpeller la conscience de ceux qui nous dirigent. La loi est loi si elle est appliquée par rapport à tout le monde, vis-à-vis de tout le monde et sans exception. Mais si on commence à mettre des lois en vigueur selon les sauts d'humeur, selon les calculs, alors là, on doit se demander si toutes ces lois valent encore. Je crois que on pourrait argumenter, mais moi je trouve que nos lois de la République sont appliquées selon les sauts d'humeur, parce qu'il y a des lois qui exigerait qu'on l'applique, par exemple, il y a des flagrances à ceci, cela, on exigerait que la loi puisse être appliquée, mais comme c'est une justice à plusieurs vitesses, comme nous avons des classes des intouchables, comme nous avons des castes des privilégiés, c'est alors que nos lois de la République sont appliquées selon.
Alors, merci beaucoup, Franck. Je retiens que pour vous, il y a question des interprétations des articles de la Constitution. Il y a également le manque de volonté, l'ignorance politique et l'absence de culture démocratique, et comme l'ont dit d'ailleurs certains compatriotes sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Franck. Ignace, vous êtes à Colosi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, j'ai toute ma joie.
Alors, on a des petits soucis avec votre ligne, Ignace. Peut-être de là où vous êtes, Allô? Vous pouvez peut-être vous déplacer. Vous sortez à entrecouper avec des micro-coupures.
Allô?
Ignace?
Allô, oui, je vous ai dit?
Alors, allez-y. Je crois que ça s'améliore un tout petit
oui,
peu.
Oui, je disais qu'il y a eu des petits problèmes. Le premier problème au niveau de notre constitution, il faut reconnaître que nous étions en train de jeter des bases hein, par rapport à la démocratie naissante. C'était la première difficulté. Il y a eu aussi un problème de volonté politique. À cela s'est ajouté, quand je parle de volonté politique, le souci d'appliquer la loi telle qu'elle avait été conçue lors des assises de Sun City. Il faut dire aussi qu'il y a eu une insuffisance par rapport à la population. C'est que notre constitution, en principe, devait être vulgarisée en la traduisant dans les différentes langues. Je vais dire beaucoup plus les quatre langues nationales. Vous allez remarquer que la plupart des Congolais ne maîtrisent pas ce que dit leur constitution. Il suffit de voir sur terrain, vous allez comprendre. Et même ceux-là qui l'ont élaboré, et au niveau de l'interprétation, ça a fait beaucoup de problèmes. Moi, j'estime qu'il y a intérêt et urgence à ce qu'à un certain moment, on révise certains articles de notre constitution. Beaucoup de mes prédécesseurs en ont parlé. Regardez, quand on dit aujourd'hui décentralisation, bien sûr, il y a encore des choses qu'il faut arranger. Moi, je me dis, est-ce qu'on ne pouvait pas envisager déjà le fédéralisme? D'aucuns me diront, mais écoutez, on n'a pas réussi la décentralisation, on ne peut pas commencer le fédéralisme. Moi, je pense que il y a tout intérêt à le faire. Il y a l'organisation du pouvoir dans notre pays. Vous allez remarquer la durée du mandat présidentiel. Vous allez aussi regarder le mode du choix. Ça pose des problèmes dans notre pays et ça fait débat. La nationalité, quand on parle de l'exclusivité, ça fait encore débat. Donc il y a autant de réalités qu'on devrait revoir. C'est qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts. Comme fondation, la base a été jetée, mais il est important parce que la Constitution n'est pas un texte figé pour toujours. On peut la réviser et moi je pense qu'il y a nécessité par rapport aux réalités, les difficultés qu'on a
rencontrées. Alors juste une question de curiosité, Ignace, parce que quand nous lisons l'exposé des motifs, on a quand même expliqué les raisons avec lesquelles on a pu élaborer les soucis du constituant. Lorsqu'il dit depuis son indépendance, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, avec l'alternance, la première alternance au sommet de l'État, nous avons atteint l'objectif tel qu'assigné par les constituants?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que pour une première fois, cette alternance, si elle n'a pas résolu tout le problème, mais elle a le mérite d'avoir jeté la grande base pour montrer qu'il y a une certaine maturité au sein de la population et la tendance, passez-moi l'expression, à une cohésion nationale, c'est qu'on a accepté, le gros de Congolais ont reconnu qu'aujourd'hui, il y a alternance, il y a un président élu et un ancien président en vie et le reste à harmoniser. Donc les bases, comme je l'ai dit, ont été jetées et ça a encouragé. Mais l'important, c'est que il est nécessaire qu'on puisse revoir certains articles et adapter notre constitution aux réalités parce que tout n'a pas été rose. Oui.
Merci beaucoup Ignace d'avoir appelé le Colosi 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention directe.
Monsieur Yves Mwamba Kadima, je suis en Mbujima. Je commence d'abord à fixer la radio Kapi. C'est une radio qui est installée avec toute la République démocratique du Congo. Mais je préfère à ce que cette radio soit toujours en contact avec la population. Parce que cette information commence d'abord par la base. Et cela permet à ce que la radio Kapi puisse développer scientifiquement sur tous les plans économiques, politiques, sociaux, culturels, à partir des informations qui sont données par la base. C'est ça mon souhait.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous retrouvons à nouveau notre invité, Maître Donatien Okoko, qui est analyste politique. Maître Donat, vous avez suivi cette longue série des auditeurs qui ont évoqué des efforts qui sont observés d'ailleurs dans l'application de certains articles de la Constitution et quelques faiblesses qui ont été également relevées par des intervenants. Que répondez-vous aux uns et aux autres?
Merci JR et merci pour tous les intervenants parce qu'ils ont soulevé des questions aussi importantes que bonnes. Maître Gracie à Kinshasa a dit que nos autorités minimisent la constitution et que beaucoup d'articles souffrent d'application. Bon, je ne crois pas qu'il a raison parce qu'il a dit beaucoup d'articles souffrent d'application, mais il n'a même pas cité un seul article. Mmh. Alors comment, quand c'est beaucoup, il a fallu donner ne fût-ce qu'un exemple, dire que tel article souffre d'une application, mais lui il a préféré parler de manière générale. Moi aussi je lui réponds de manière générale que pour me permettre de bien répondre il fallait qu'il puisse donner ne fût-ce qu'un seul exemple d'un article qui souffre d'une application. Monsieur Augustin de Mbandaka, lui pour lui il parle de révision intempestive et puis à la fin il dit que le problème n'est pas seulement congolais, c'est un problème qui est africain parce que chaque fois qu'on arrive aux élections, il y a la constitution qui est révisée. Mais moi, je ne crois pas qu'il a raison non plus parce que notre pays lui-même, notre constitution a dit que le président a deux mandats et Kabila, à la fin de son deuxième mandat, ne s'est pas représenté. Donc, il ne faut pas toujours généraliser parce que en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont toujours respecté leur constitution. Je peux citer à côté de nous la Tanzanie, qui a toujours organisé des élections et la passation du pouvoir a toujours eu lieu. La Zambie, je peux donner l'exemple, le Sénégal. Donc il y a beaucoup de pays qu'on ne généralise pas pour généraliser. Il a parlé aussi de droits humains, mais je dois lui dire aussi que, comme il a fait la comparaison de notre pays avec les autres pays africains, s'il doit vraiment faire une analyse sérieuse, il trouvera que les droits humains sont beaucoup respectés chez nous, plus que dans beaucoup de pays africains.
Oui, mais Maître Donat, parce que quand on a parlé, j'ai parlé tout à l'heure au début des quatre idées forces de cette constitution, mais lorsque je prends la première idée de l'État et de la souveraineté, la question sur la forme de l'État n'a pas été explicitement définie au niveau de la constitution. Est-ce que vous ne pensez pas que il va falloir, dans la prochaine révision, s'il y a, et il y en aura, qu'on puisse réellement ressortir de manière claire la forme de l'État?
Non, Gérard. La forme de l'État, la Constitution ne donne pas, la Constitution n'écrit pas tout. Si on doit tout écrire dans la Constitution, vous allez voir que la Constitution pèserait des tonnes. Quand vous lisez la loi portant libre administration des provinces, vous allez trouver que la forme de l'État est bien définie. La forme de l'État congolais, c'est un État unitaire régional, qu'on appelle aussi le régionalisme politique ou l'État régionalisé. C'est ça la forme actuelle. Donc une forme qui est en cheval entre l'État unitaire décentralisé et la forme fédérale. Et quand vous allez dans la Constitution, vous allez trouver ça. Par exemple, quand vous avez les articles 202, 203, 204, vous allez trouver que le constituant fait la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces et le pouvoir qui leur sont concurrents. Donc, une telle disposition, c'est une disposition qu'on les retrouve dans des pays à forme fédérale. Mmh. Parce que la fédération est prévue dans la Constitution.
Et vous allez voir que vous, quand vous rentrez à l'article 3 de la Constitution, on vous dit que les provinces et les entités territoriales décentralisées sont dotées de la personnalité juridique. Et on vous cite les entités. Donc nous avons une forme de l'État qui est en cheval entre la forme unitaire décentralisée et la forme fédérale. Cette forme-là, on l'appelle l'État régional. Donc la Constitution ne doit pas tout dire, mais c'est en lisant les dispositions de la Constitution qu'on comprendra à quelle forme de l'État notre le constituant a opté.
Voilà. Alors la question des droits humains, il y a un auditeur qui a évoqué aujourd'hui la confusion dans l'interprétation de certains articles relatifs aux droits humains. Si nous prenons par exemple le régime d'information en cas de manifestation publique, et là aussi ça prête une normale confusion, et certaines autorités provinciales ou encore des entités territoriales décentralisées en font selon leur entendement.
Bon, Gérard, là nous avons un retard, parce que la Constitution a donné le principe. Le principe, c'est l'information. Mais maintenant, la Constitution prévoit que les manifestations publiques doivent faire l'objet d'une loi. Et jusqu'à ce jour, cette loi-là n'a pas encore existé, n'a pas encore été votée. C'est ça le problème que nous avons. Raison pour laquelle, chaque fois qu'il y a manifestation, les manifestants doivent recourir à l'autorité politico-administrative. Et parce que cette autorité, qui a suffisamment d'informations plus que quiconque dans sa juridiction, peut dire oui, je vous donne, vous pouvez organiser votre marche, il n'y a pas de problème. Mais s'il a des informations qui peut faire que, en autorisant la marche, en prenant acte, pas en autorisant, mais en prenant acte de la marche, voici ce qui pourrait arriver. Comme autorité administrative, il doit prévoir, il ne doit pas subir, mais il doit prévoir. En ce moment-là, il peut vous dire non, je vis votre lettre d'information, mais compte tenu de certaines informations que nous avons, si vous pouvez renvoyer votre marche à plus tard. Donc ça, on ne peut pas refuser aux autorités, parce que les autorités sont là pour l'intérêt général. Mais faut-il faire un effort que la loi sur les manifestations publiques doit être votée pour permettre à tout le monde qui voudrait manifester de manifester en se conformant à la loi.
Il y a un auditeur qui, évoquant la question de l'exercice du pouvoir tel que consacré dans la Constitution, il fait des commentaires en disant que 14 ans après, on a eu l'impression que tous les pouvoirs étaient concentrés au président de la République. Mais bon, apparemment, qui contresignait certaines ordonnances avec le Premier ministre, et on ne sentait pas les pouvoirs contraignants des législateurs.
Non, le législateur ne gère pas au quotidien la chose publique. C'est l'exécutif qui gère au quotidien la chose publique. Mais ici, il y a le problème. Dans l'exécutif est constitué de deux organes. Il y a le président et le gouvernement dirigé par le Premier ministre. Mais qui répond de la gestion de la chose publique au jour le jour? C'est le gouvernement. Raison pour laquelle, quand vous allez à l'article, si ma mémoire ne me trahit pas, article 79, on vous dit que les ordonnances du président, autres que celles qui sont reprises à l'article 78, 80, 84 et 143, ce sont ces ordonnances-là qui ne peuvent pas faire l'objet de contresignes. Mais toutes les autres ordonnances doivent être contresignées. Pourquoi le président les contresigne-t-il ces ordonnances-là? Les contresignes jouent trois rôles. Il y a le rôle de l'authentification. En contresignant, celui qui contresigne, le Premier ministre, authentifie l'acte. Et puis, le contresigne joue le rôle de transfert des responsabilités. C'est-à-dire qu'en contresignant, le Premier ministre s'en rend responsable et blanchit le président. Pour dire que s'il y aura un problème plus tard, ne demandez pas de compte au président, mais c'est moi le Premier ministre qui suis responsable. Mais là aussi, il y a un problème, Gérard. Il y a un problème, c'est pourquoi quand les autres disent qu'il faut réviser la Constitution, il y a certains articles qui méritent d'être révisés. Par exemple, si le président doit nommer le directeur général du journal officiel, est-ce que cette ordonnance-là a besoin d'un contresigne? Pour ma part, je ne crois pas. Parce que le service du journal officiel c'est un service qui rentre dans les attributions du président.
Du président de la République.
Cette ordonnance-là ne peut pas être contresignée parce qu'aucun jour, l'Assemblée nationale ne demandera de compte au Premier ministre. Il y a encore, par exemple, l'ordonnance, s'il doit nommer quelqu'un le service national qui s'occupe de l'agriculture. Toutes ces ordonnances-là ne méritent pas d'avoir un contre-essai parce que ça rentre dans les attributions propres du président. Par exemple, s'il doit gracier de le prévenir, ces ordonnances-là ne méritent pas d'être contre-signées. Mais toutes ces ordonnances-là ne sont pas reprises dans les dispositions de l'article 79 qui limite seulement à 4 les ordonnances. Mais il y a tant d'autres ordonnances que le président peut prendre qui n'a pas besoin de contre-essai parce que le Premier ministre ne sera jamais, on ne lui demandera jamais de compte à l'Assemblée nationale. Donc c'est pourquoi nous disons que pour certains articles de la Constitution, il y a lieu vraiment de faire un toilettage, mais avant de faire ce toilettage-là, nous, je crois qu'il faudrait qu'on mette une commission de suivi, une commission d'évaluation, qu'on vienne évaluer la Constitution 14 ans après. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Merci beaucoup, Maître Donatien Okoko. Nous vous gardons encore en ligne. Il est temps de conclure cette émission ensemble avec vous. Félicien est à Kinshasa et Shadrach à Mbujimayi. Bonjour, Félicien.
Joyeux anniversaire à tous les Congolaises et Congolais, parce que le travail abattu par la Radio Okapi a concerné toute la nation, et c'est la nation qui a tiré profit de tout ce que la Radio Okapi a fait. Moi, je voudrais vous dire que après 14 ans, après tout ce qu'on a connu comme problème, il est temps aujourd'hui qu'on revoit un peu des articles de la Constitution qui ont créé beaucoup de confusion, ou qu'on puisse les éclaircir pour qu'il n'y ait plus beaucoup d'interprétations dans l'avenir. Le cas du mandat du président en exercice, et qui a fait tirer à longueur le mandat du président Kabila. Il faudra qu'on puisse donner des précisions. Quand est-ce que le président qui est en exercice doit déposer quitter le pouvoir? Et puis, il y a les problèmes de nationalité. On avait beaucoup plus peur quand on a voulu contraindre les gens à une seule nationalité, parce que mes voisins voulait s'imposer à être en même temps congolais et rwandais et ougandais. Mais aujourd'hui, ces choses faites, ils ont déjà reçu leur coup, ils sont dans les institutions, ils nous dirigent tout ça. Donc on peut ouvrir la nationalité à d'autres, comment je vais dire, faire la double nationalité pour que les Congolais puissent aussi jouir de cet article comme partout dans le monde. Ça sert plus de continuer à garder une nationalité congolaise unique. Ça ne porte pas, ça ne range plus rien, parce que c'est concret. Ils sont déjà là de force, ils sont devenus des Congolais. On peut se mettre peut-être qu'il y a un certain garde de force. Donc moi, je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup d'articles qu'on devrait revoir et qui ont posé des problèmes, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive pendant les 14 ans, chaque fois qu'il y avait un problème. On voulait d'aller chercher à toucher des articles qui n'ont pas de problème. Donc on se consacre à ceux qui ont posé des problèmes dans leur exécution pendant toutes ces années.
Merci beaucoup, Félicien, d'avoir appelé de Kinshasa. Shadrach, vous êtes en Mbujimayi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Julien. Bonjour à Maître Donatien Okoko. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre contribution, Shadrach?
D'entrée de jeu, laissez-moi souhaiter joyeux anniversaire à la Radio Capi pour ses 18 ans. Et joyeux anniversaire de constitution à sa 14e année. Je suis parfaitement d'accord avec Maître Donancien Okoko par rapport à ses analyses qui tient. À mon avis, moi j'estime que notre constitution ne souffre d'aucune faille dans la mesure où cette constitution nous a doté d'une institution, rien que sauf l'élection locale.
Voilà, sauf les élections locales, Shadrach n'est plus en ligne. Maître Donatien, vous êtes encore avec nous?
Oui, je suis avec vous, Gilles.
Alors, je crois que dans plusieurs intervenants, des interventions, il est dégagé qu'effectivement, il y a beaucoup d'articles qui n'ont pas été d'application. Ben, c'est vrai, on a cité quelques-uns à la volée. Mais dans l'ensemble, on peut dire aujourd'hui, quand nous lisons l'exposé des motifs par rapport à l'objectif pour résoudre ce problème de crise à répétition et aussi la contestation de la légitimité des institutions et leurs animateurs, le fait qu'on a atteint l'alternance, on peut dire que voilà, l'objectif a été atteint par rapport à la Constitution.
Entre autres, pas que l'objectif a été atteint à 100%, mais entre autres, parce que c'est cette crise-là qui est de légitimité des institutions et des animateurs qui a donné lieu à beaucoup de guerres et de rébellions que le pays avait connues. Mais aujourd'hui, Dieu merci que ce pas a été déjà franchi et que nous devons espérer que dans les autres années qui viennent, que ça soit toujours ainsi, que ça ne soit pas un cas occasionnel qui est arrivé avec Joseph Kabila et que les autres n'emboîtent pas le pas. Moi, je crois que dire qu'il y a beaucoup d'articles qui ont souffert d'une exécution, je ne crois pas. Il y a certains articles qui ont souffert d'une exécution, mais pas beaucoup. Donc je ne crois pas que ces articles-là peuvent dépasser 5, je ne crois pas sur les 229. Et donc si nous devons tenir compte des proportions, nous pouvons dire que la Constitution a très bien évolué, mais que je suis d'avis qu'il faille qu'on puisse mettre une commission d'évaluation de la Constitution pour que nous puissions parfaire notre Constitution. Par exemple, le président de la République aujourd'hui qui n'a pas la majorité au Parlement, qui a une majorité de coalition, qui se trouve être bloqué par certains ministres qui ne veulent pas appliquer ces ordonnances. Vous voyez que ça, c'est déjà un problème. Parce que le président est élu sur base d'un projet politique. Alors que le gouvernement, qui est majoritaire, l'a aussi été élu par sur base aussi d'un projet politique. Donc nous sommes en présence de deux situations. Et que lorsque l'un, d'un côté, on ne veut pas appliquer le programme du président, c'est qu'à la fin de compte, en 2023, le président peut être en difficulté pour répondre aux attentes de la population parce qu'au sein de son gouvernement, il a été mis à mal. Et donc, voilà des cas que nous devons chercher à voir. Parce que quand on est dans un régime, dans un régime parlementaire, et ici on n'est pas dans un régime parlementaire à 100%, parce que le président est élu aussi sur base d'un projet. Alors, à la différence des régimes parlementaires où le président est élu sur un suffrage restreint au second tour, c'est différent d'un président qui est élu au suffrage universel. Là, il faudrait que le président ait le moyen de sa politique. Et c'est pourquoi je disais, par exemple, les ordonnances, là, on limite les ordonnances à 4. Mais s'il doit faire, il doit gratter les prisonniers, pourquoi doit-on les contraindre à avoir un contretien? Et parfois, il peut chercher le contretien qui n'arrive pas. Et vous voyez comment on peut se trouver dans une crise inutilement, parce que le texte n'a pas été cohérent.
Merci beaucoup, Maître Donatien Okoko, d'avoir accepté de partager ces 57 minutes interactives avec l'ensemble de compatriotes ici au pays et à l'étranger. Merci également à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de cette émission, qui a bénéficié des concours de la réalisation et de la production des Pierre Lamégie et Nico Kalambay. Nous nous retrouvons demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.